Alors, c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous un certain nombre de choses que le Seigneur m'a montrées tout récemment. Vous savez que la perfection n'est pas de ce monde. Je crois que ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Bien, ça nous donne l'occasion de nous pencher aujourd'hui sur un monde parfait. Le monde à venir parfait que le Seigneur propose à tous ceux qui se confient en lui. Et pour ce faire, on va surtout lire la parole de Dieu ce matin. On va lire Apocalypse, le chapitre 21 et une première partie du chapitre 22. Et ce sont des réflexions qui sont inspirées par un livre que j'ai lu sur l'Apocalypse qui a été écrit par Nicolas. Et qui est paru aux éditions Mennonite, donc qui s'appelle Nicolas Farelli. Et le livre s'appelle L'Apocalypse, les coulisses de l'histoire. Est paru aux éditions Mennonite. Et c'est des réflexions de ce livre que je me suis inspiré pour ce matin, parce que je les ai trouvées très utiles. Dans 2 Pierre que nous étudions à l'heure actuelle avec Benjamin, et sans entrer aujourd'hui dans les détails du chapitre 3, ça sera peut-être la prochaine fois avec Benjamin, nous lisons un verset qui me paraît quand même très important parce qu'il est en lien avec la thématique que nous abordons aujourd'hui. Et c'est le verset 13 qui dit « Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux et une terre nouvelle, des cieux nouveaux et une terre nouvelle. » Où la justice habite. Et les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse nous décrivent comment un jour Dieu va renouveler toutes choses. L'Apocalypse, c'est l'histoire de 2 principes qui s'opposent, le principe du bien et le principe du mal. Le principe du mal est dominé par Babylone, la cité de l'oppression et de la mort, qui à l'époque était représentée par l'Empire romain. Et cette Babylone est remplacée à la fin de l'Apocalypse par la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, une nouvelle culture de vie, de plénitude, de paix. Et ces derniers chapitres de toute la Bible, d'ailleurs, offre une vision magnifique et haute en couleur du renouvellement de toutes choses dans la création de Dieu. Et je vous propose simplement de commencer par les lire. On lit au chapitre 21. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, tout près de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout je fais du nouveau », et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. » Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes des sept derniers fléaux vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, sur les 12 portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille avait 12 fondations. Elle portait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 000 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe et la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour, or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur qui les éclairera et ils régneront à tout jamais. Jusque-là, notre longue lecture qui nous permet maintenant d'entrer un petit peu dans la contemplation de ce nouveau monde. Et je vous présente quelques points saillants de cette description assez extraordinaire. D'abord, premier point, certitude et vérité. Au verset 5, nous lisons « Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Est-ce que nous considérons que ces paroles sont certaines et vraies? Évidemment, le fait de considérer qu'elles sont certaines et vraies, c'est la base. Si nous ne considérons pas que ces paroles sont certaines et vraies, alors c'est difficile d'avoir une idée de ce que sera un jour ce monde nouvellement transformé par le Seigneur. Donc la vérité. Jésus avait dit « Je suis la vérité ». Il avait dit aussi « Je suis le chemin ». « Je suis la vérité et je suis la vie ». Donc, nous sommes appelés à considérer ces paroles comme des paroles vraiment véritables. Et puis, après la lecture de cette description, on est surpris par la magnificence, la beauté de ce qui est décrit. La nouvelle création que Dieu propose dans ces chapitres, ce sera une belle création. Nous vivons déjà dans une création remarquable, dans une création belle. Mais ce jour-là, lorsqu'elle sera renouvelée, ça sera vraiment très beau. Tout est beau, et on constate que dans cette nouvelle création, tout va bien aussi, tout va mieux, tout est parfait. Si nous pouvons avoir une petite idée de la perfection, tout est parfait dans cette nouvelle création. Et puis, troisièmement, cette description nous fait apparaître un contraste entre les deux choses que j'ai mentionnées dès le départ. Hein. L'Apocalypse nous décrit du début à la fin une lutte entre le mal et entre le bien, et une lutte qui sera finalement victorieuse pour Dieu. Et ce passage nous présente un contraste énorme entre cette Jérusalem nouvelle et puis Babylone, la grande, qui est une ville idolâtre, qui est une ville déchue, qui est déjà décrite au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. Elle est évidemment moins décrite en moins de détails ici. Mais en Apocalypse 17 et 18, cette Babylone est appelée aussi la grande prostituée. Et ici, Jean et Jésus nous parlent de la Jérusalem céleste comme de l'épouse, de la femme de l'agneau. L'une est donc Babylone, la prostituée, cherchant à tout pervertir par son influence. C'est terrible. L'autre est l'épouse, radieuse de pureté, glorieuse dans sa sainteté. Et Babylone subit la colère de Dieu et subira un jour la colère définitive de Dieu. La nouvelle Jérusalem est bénie et elle reflète la gloire de Dieu. L'auteur fait aussi un contraste ici entre la nouvelle Jérusalem et Babylone, en décrivant Jérusalem ici comme un cube. Dans les textes anciens, non bibliques, et ceux d'Hérodote en particulier, Babylone était décrite comme un carré. Ici, Babylone est décrite comme un cube. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem est décrite comme un cube. Et il est très probable que ce cube fasse symboliquement référence aussi au saint des saints du temple de Jérusalem. Nous lisons dans 1 Roi 6 et au verset 19, ce qui suit, « Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 mètres de large et 10 mètres de haut. Et Salomon le couvrit d'or pur. » Donc, on voit une certaine ressemblance entre ce premier sanctuaire dans le temple de Jérusalem et le sanctuaire définitif, aussi cubique, que Dieu, qui nous est décrit ici dans Apocalypse 21 et 22. Et on découvre aussi que c'est un peu comme si les enfants de Dieu sont décrits ici aussi comme une communauté de prêtres royaux dans cette nouvelle Jérusalem. L'apôtre Pierre décrivait déjà les chrétiens comme une communauté de sacrificateurs, comme une communauté de prêtres. Et là, ça sera accompli encore plus définitivement. Dans la nouvelle Jérusalem, Dieu sera présent comme il était présent dans le Saint des Saints du temple de Salomon, mais avec des différences. Dans le Saint des Saints, le sacrificateur n'allait qu'une fois par an pour présenter le sacrifice, pour présenter du sang, alors que dans la nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu aura accès à sa présence. Il vivra dans la présence de Dieu. La nouvelle Jérusalem est donc bien plus glorieuse, bien plus grande, bien plus puissante que l'actuelle Jérusalem, et encore bien plus puissante que Babylone qui s'oppose à l'heure actuelle, qui est le principe de toutes les oppositions actuelles, qui ressemblent à tous les systèmes d'oppression qui sont présents dans le monde et aujourd'hui encore. Oui, la nouvelle Jérusalem est l'alternative à l'Empire romain dans lequel vivaient les premiers chrétiens à qui était adressé l'Apocalypse. Et puis, c'est une alternative aussi à tous les systèmes qui, depuis, essayent de prendre l'un après l'autre le dessus sur la terre, le dessus sur leur peuple, le dessus même sur le monde entier. Ils ont essayé, mais ils n'y sont pas arrivés jusqu'à présent. Le peuple de Dieu vivra donc dans la présence de Dieu. Et quelle alternative extraordinaire pour nous de quand nous pouvons penser à cela. Et puis, ensuite, il est important de noter combien cette description de la Nouvelle Jérusalem s'attarde à nous montrer tout ce qui ne sera pas présent dans la nouvelle création. Là, on a parlé surtout de choses qui auraient, qui n'y a pas actuellement. Et maintenant, on va parler de choses qui n'y aura plus et qui sont, à l'heure actuelle, encore présentes dans cette création. D'abord, pas de mer. La mer, c'est, chez les Hébreux, le symbole du chaos et du mal. Et c'est pourquoi il n'y en aura plus. Et parmi quelques textes qui parlent de ces choses-là, Ésaïe 57 et au verset 20 nous dit « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut rester tranquille. Ses eaux agitent la vase et le limon. » Donc, dans cette nouvelle création, pas de mer, pas de mort non plus, au verset 4, pas de larmes, de deuil, de cris, de douleur. C'est extraordinaire de penser à ça. Pas de mal, lisons-nous au verset 8 du chapitre 21. Plus rien de souillé, plus de malédiction. Pas de temple non plus, pas de soleil, pas de lune, et en même temps pas de nuit. C'est extraordinaire. Pas de porte fermée. Vérissure sera inutile, si vous connaissez Vérissure. Et ça, c'est des choses extraordinaires que nous avons vraiment du mal à concevoir. Mais c'est comme ça, le monde nouveau que Dieu nous promettra dans cette nouvelle Jérusalem. Alors bien sûr, toutes ces différences entre notre créature actuelle et ces choses renouvelées mettent en valeur que le plan de Dieu pour sa création, ces plans vont s'accomplir. Ce plan de Dieu a commencé, il a commencé il y a bien longtemps, il s'est manifesté notamment par l'immense grâce, l'immense cadeau que Dieu nous accorde après la chute initiale de toute notre humanité Et cette grâce immense consiste à nous réconcilier avec lui. Et si nous pouvons éprouver déjà du bonheur, c'est cette joie de pouvoir être réconciliés avec le Seigneur, avec Dieu. Il l'a fait par la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection qui nous permet aujourd'hui de nous tourner efficacement vers lui parce que Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5 et au verset 17, « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé et il y a là du nouveau. » On peut même dire que quand on se tourne vers Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles, comme le disent certaines versions plus anciennes. C'est extraordinaire d'être transformé par notre réconciliation avec le Christ. Et pour cela, il suffit de se tourner vers lui. Il faut reconnaître que nous sommes dans l'incapacité de rétablir cette réconciliation avec Dieu à cause de notre péché. Mais Jésus a pris sur lui ce péché qui nous sépare de Dieu. Et il nous engage et il nous appelle aujourd'hui à l'accepter, à accepter que c'est lui qui a payé pour ses péchés. Et ainsi à faire un demi-tour par rapport à tout ce que nous vivons peut-être actuellement. En tous les cas, le dessein de Dieu dans l'Apocalypse, c'est de tout réconcilier avec lui-même dans sa création. Et ce dessein sera pleinement accompli dans cette nouvelle création dont nous avons lu quelques échantillons extraordinaires, parce que tout sera en paix, tout sera en harmonie, tout ce qui existe sera renouvelé, transformé en mieux. Dans cette nouvelle Jérusalem, tout ce qui est opposé à Dieu est absent. Tout ce qui empêche les êtres humains de s'épanouir devant Dieu, il n'y en a plus. Il n'y a plus ces empêchements. Alors voilà ce qu'on pourrait dire pour résumer une expérience, pour résumer une espérance chrétienne extraordinaire qui paraîtra un jour dans toute sa splendeur. C'est dans la nouvelle Jérusalem que les chrétiens régneront avec Christ pour toujours. C'est difficile de se représenter ce que c'est que de régner. Moi, j'ai jamais régné, vous non plus. Il y a quelques rois clés qui essayent de régner, il y a quelques grands rois qui ont pu régner, et c'était pour eux toujours difficile, parce que ça dépendait beaucoup d'eux. Ils pouvaient bien sûr se confier en l'Éternel, et ils l'ont fait, l'un ou l'autre, mais la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait. Ils se confiaient en eux-mêmes. Et un jour, les chrétiens pourront régner, et nous serons de leur nombre si nous nous confions en l'Éternel, et nous pourrons régner, mais régner avec Dieu. On ne régnera pas tout seul, avec le Christ. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent souffrir, et il y en a beaucoup qui souffrent. Et vous souffrez peut-être, et nous souffrons peut-être. Et il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui doivent faire face aux forces de Satan, face à l'oppression, face aux difficultés qui surviennent, face à la culture de la mort qui tente de les attirer dans ses filets. Mais le message de l'Apocalypse est valable aujourd'hui, c'est que le monde à venir sera tout autre. Ce livre nous rappelle que l'agneau immolé, Christ, a déjà vaincu Satan et tous ses sbires, et que Satan et Babylone sont en train d'être jugés déjà aujourd'hui, et que leur jugement sera prochainement effectif et total. Et finalement, la victoire définitive va arriver, et elle sera établie dans cette nouvelle Jérusalem. Alors, ce conflit, qu'on pourrait définir en disant qu'il est cosmique, se poursuit encore maintenant, et il va atteindre certainement encore des moments vraiment difficiles, mais il y a une chose qui est déjà certaine, Dieu a déjà vaincu. Jésus a déjà vaincu sur la croix et Satan a beau se déchaîner aujourd'hui encore, mais il est déjà vaincu et il sera vaincu, mis définitivement hors d'état de nous nuire. Alors, j'espère que ce rappel et ces vérités puissent vous encourager aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Et c'était pour moi extraordinaire de les redécouvrir. J'espère qu'ils vous feront du bien aussi dans les situations difficiles que vous vivez encore aujourd'hui, dans tout ce qui nous préoccupe encore aujourd'hui. Je souhaite que le Seigneur nous bénisse et nous encourage par son esprit et par sa parole, abondamment. Amen.